Est-ce que très brièvement, on peut commencer par un petit tour de table pour présenter qui vous êtes, vous situer un petit peu dans votre rôle et rapidement nous présenter ce que vous allez nous montrer plus tard en 1 minute chacun. Peut-être commencer par Christophe.
Merci beaucoup pour l'invitation et pour ce webinaire. Donc, Christophe-Cécile Garnier, moi, je suis co-rédacteur en chef du pôle enquête à Street Press. Je travaille depuis 10 ans en pige et 7 ans titulaire. Et donc, Street Press, voilà, c'est un média d'enquête très connu pour ses enquêtes sur l'extrême droite, mais pas que, hein. On enquête sur, de manière générale, les violences étatiques, les sujets de société. Ce genre de choses, les quartiers populaires, la précarité, les sans-papiers. Et donc voilà, oui, nous, c'est l'enquête vraiment caractérise Street Press maintenant depuis plus de 10 ans, vraiment où on a commencé à mettre ça en place. Et typiquement, donc on va, là, ce soir, on va, moi, mon rôle, c'est plus axé autour un peu des 2 dernières grosses campagnes de, on va dire, d'enquête visuelle qu'on a pu sortir en 2024 avec la carte OFAF, qui est une carte qui cartographie donc l'ensemble des mouvements et sections d'extrême droite radicale en France, présents sur tout le territoire. Et en 2026, nous avons fait donc la carte des brebis galeuses de l'extrême droite au municipal, où nous avons décompté plus de, si je dis pas de bêtises, 258 candidats d'extrême droite qui avaient évidemment des casseroles aux fesses. Donc pour nous, voilà, le but, c'est vraiment d'avoir les brebis galeuses du RN, pardon, hein, c'était 250 brebis galeuses sur des listes RN et alliés, donc Ciotti, Marion Maréchal Le Pen, tout ça. Et voilà, nous, le but à chaque fois dans ces cas-là, c'est vraiment d'essayer d'influer sur le débat politique et médiatique, évidemment, avec nos révélations.
Merci beaucoup. Vas-y, Anton.
Oui, donc je vais vous présenter Reflet.info, qui est un journal pareil d'enquête qui est né en 2011 d'une rencontre entre moi, journaliste, et une autre personne qui, elle, est experte en sécurité informatique. Son métier, c'est faire des tests d'intrusion pour les entreprises. Et on s'est dit qu'on pouvait mettre en commun des compétences et des méthodes d'enquête dans un monde qui est chaque jour un peu plus numérique. Et voilà, et donc ça a donné Reflet. On est un journal généraliste et bien sûr, on parle beaucoup d'extrême droite parce que on se rend bien compte que il y a, et c'est l'objet de la cartographie qu'on a faite aussi, donc on a commencé, on va dire, qui est le sujet qui nous tient à cœur, c'est que au-delà du parti politique qui est le plus en vue, le Rassemblement national ou les groupuscules, on se rend compte qu'il y a en fait toute une galaxie d'extrême droite qui est au service de l'arrivée au pouvoir du RN. Et c'est cette galaxie que l'on veut cartographier. Donc on a commencé tranquillement, en 4 mois, à 4 personnes, on a fait 450 fiches que vous pouvez déjà voir. Et on espère en faire quelques milliers dans les mois à venir, avec l'aide des lecteurs.
Merci beaucoup. Ricardo?
Ouais, je vais. Bon, avant tout, bonsoir. Merci pour l'invitation. Je vous ai perdu un peu là. Il y a eu un bug dans la connexion. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'Antoine il a dit. Mais certainement, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. C'est pour présenter Reflet. Et donc, moi, je suis journaliste indépendant. Donc, je travaille pour plusieurs médias, mais notamment beaucoup même avec Reflet. Et donc, je participais aussi à la création donc de ce nouveau outil numérique qui s'appelle LinkED, que cartographie l'extrême droite radicale et l'extrême droite parlementaire aussi. Et je pense que voilà, c'est bon comme ça, petite introduction.
Merci beaucoup. Et Jean?
Salut, du coup Jean de l'Observatoire de l'extrême droite dans le 61, dans l'Orne. Alors en quelques mots, en fait, je fais partie de quelques personnes qu'on décidé de se regrouper un petit peu pour enquêter sur l'extrême droite dans le contexte voilà, des législatives, des municipales. Et ça ressemble un petit peu finalement à la présentation, mais version locale de ce dont a parlé Reflet. Il y a également dans notre département toute une galaxie en effet qui se met tout à fait au service de l'accession au pouvoir du RN. Et donc on a essayé de regarder un petit peu ce qu'il y avait dans le coin. Et ce qui nous a permis, nous, de publier un trombinoscope avec l'idée de faire bénéficier un peu le tissu militant local afin que les gens se rendent compte en fait de ce qui se passe et puissent mettre aussi des noms sur des visages, des visages sur des noms et savoir à qui ils ont affaire au quotidien potentiellement sur un plan local.
Merci beaucoup. Et normalement, on a Carolina et Caterina qui étaient censées venir aussi du Royan, mais elles m'ont partagé, elles ont une urgence personnelle, elles m'ont partagé ce qu'elles voulaient raconter. Donc du coup, je pourrais aussi parler de ce qu'elles ont fait, mais elles ont mené des enquêtes habitantes, j'ai participé, au Royan pour diagnostiquer territorialement la menace de l'extrême droite sur leur territoire et cartographier leurs alliés. Donc du coup, elles avaient quelques pistes aussi pour nourrir un peu la discussion de comment mener des enquêtes participatives et qu'est-ce que permet l'enquête comme processus d'enquête au-delà même des résultats. Mais pour commencer, je voulais commencer du coup avec toi, Christophe, et sur peut-être un exemple plus récent sur les municipales et les brebis galeuses. Quels étaient exactement vos constats de départ et vos motivations pour monter cette cartographie? Est-ce que vous voulez bien nous raconter un peu étape par étape comment elle s'est construite, avec qui, comment? Et, ouais. Et surtout, ce qu'elle a permis, comment elle a été reprise et est-ce que ça a permis en tant que résultat. Et je vais pouvoir partager l'écran maintenant.
Ouais, merci beaucoup pour le partage. Oui, donc en fait, cette carte-là, c'est un projet que j'ai eu un peu, enfin voilà, dont on a un peu commencé à penser en janvier. En janvier, vraiment comment la mettre en place. Mais en vrai, le projet est d'avant parce qu'il s'introduit dans une séquence qu'on a appelée, nous, la bataille des municipales. En gros, comme tu peux le voir, enfin, comme vous pouvez le voir sur la carte ici, d'ailleurs, tu peux cliquer sur le lien pour l'afficher en plein écran plutôt que sur le site de Street Press. Ce sera encore mieux avec le lien juste en dessous. Mais en fait, donc, on proposait déjà depuis septembre une carte avec le score de risque. Donc là, vous êtes sur la carte des brebis galeuses, il y a celle du score de risque. Et en fait, ça me devait voilà, nous permettre de dire aux gens, voilà où l'extrême droite risque de passer. Et ça, donc, c'était la première étape du projet qui, avec cette carte qui est sur le Nutri, enfin le FAFOscore, comme on l'a appelé, qui permettait de voir un peu quelles étaient les villes où il fallait en fait concentrer pour les citoyens, les politiques, vraiment là où ça risquait en fait de basculer. Et donc, bah, même pour nous, en fait, en tant que journaliste dans le média, c'était un outil pour se dire, ah ok, bah, voilà un peu là où on va regarder et tout, parce que bon, évidemment qu'on peut faire des enquêtes sur, on essaie de faire des enquêtes sur à peu près, enfin partout, mais c'est vrai que on essaye aussi de concentrer, parfois on est un petit média, enfin on a quand même une vingtaine de personnes aujourd'hui, donc on commence à quitter la case de petit et tout, mais on ne peut pas être partout, clairement. Et donc, entre faire des enquêtes sur, typiquement, j'en sais rien, mais Thierry Mariani à Paris qui avait zéro chance de passer et une Laure Lavalette qui avait justement 85% de chance de passer, on va dire, à Toulon, bah, voilà, le choix nous permettait aussi de montrer tout ça. Et donc, on a décidé donc de faire cette carte avec le FAFOscore et après, à partir de janvier, de plancher un peu sur ben voilà, comment est-ce qu'on va réussir à prolonger ça. Et l'hypothèse de départ, évidemment, c'est de dire il va y avoir des brebis galeuses au RN, il y en a toujours. Et outre le fait de passer sur le terme même de brebis galeuses, qui a tendance à dire que enfin voilà, ce ne sont que quelques petites personnes, c'est un terme hein, qui a été pris par Jordan Bardella, hein, donc on réutilise par ironie. outre le fait de se dire, bon, ben voilà, il va y en avoir évidemment quelques encore, c'est aussi de dire, montrer en fait le côté systémique qu'il peut y avoir au Rassemblement national sur les candidats qui sont adeptes de propos racistes, de propos suprémacistes, qui viennent de groupes violents, de propos antisémites aussi, hein, même si le parti aujourd'hui jure avoir changé et être le premier défenseur des Juifs en France. Tout ça, en fait, on sait évidemment que nous, que c'est faux quand on voit les faits, mais c'est vrai qu'on est pris un peu, et ça, c'est un truc pour cette carte-là, mais aussi l'autre, toujours dans un flux d'informations. Et ça nous fait un peu perdre, je trouve, un peu la vision d'ensemble, la vision globale. Et donc, cette carte, c'était pour nous le moyen d'avoir cette vision globale. Évidemment que le principe d'une carte, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein. Il y a des médias qui faisaient déjà un peu, enfin qui ont déjà fait lors de ces élections leur propre carte. Libé a fait une carte sur les révélations qu'il donnait, mais en fait on s'est dit, nous à Street Press, on essaye d'être le plus global et collectif possible et de se dire, on va citer les autres confrères, on va mettre leur candidat en fait problématique du RN dessus, et comme ça va nous permettre d'arriver au chiffre le plus représentatif. Parce que je crois que Libé, ils en avaient une centaine. Et en fait, nous, en additionnant à la fois les nôtres, à la fois ceux révélés par Mediapart, Reflet, Le Monde, Le Média et tout, on arrive donc à ce score de 250. Mais déjà dans l'esprit, en fait, moi, j'avais en tête ce qu'avait fait le groupe La Gauche d'Internet en 2024, qui avait fait une carte justement aussi, là encore, des candidats à la députation problématiques. Et qui était une carte, c'était pas une carte aussi léchée, on va dire qu'on a mis quand même un peu d'argent dedans avec le studio Upian qui nous accompagne à chaque fois pour faire ces cartes-là. Et donc, voilà un peu le but qui était là et comment c'est né, quoi. Moi, je trouve que cette carte à l'époque, en 2024, qui avait été faite vraiment par des particuliers, des gens qui n'étaient pas forcément journalistes et qui avaient un peu rassemblé toutes les infos qu'il pouvait y avoir sur les candidats à la députation, était hyper intéressante. Et donc, on avait envie derrière de refaire tout ça. Et donc, la méthodologie, évidemment, c'est dès le départ, se taper un peu, éplucher tous les comptes de candidats, notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est un peu sur les comptes Facebook, soit privés, soit publics même, ou Twitter, c'est là où on voit un peu le vrai visage, le visage quotidien en fait, des candidats du Rassemblement National, plutôt que des déclarations dans des médias où ils essaient de faire attention. Et donc déjà, ça a permis à Libé d'en révéler des dizaines. Nous, ça nous a permis aussi d'en épingler pas mal. Il y en avait d'anciens qu'on avait déjà épinglés aux législatives. Donc, on a permis aussi de réutiliser un peu le travail qu'on avait fait là. Il y avait Brice Bernard, par exemple, à Chambéry, qui avait été auteur d'une quenelle il y a quelques années. Il y avait le candidat à Concarneau qui parlait de faire... une chasse en fait aux personnes migrantes notamment. Donc ça permet aussi de montrer un peu quelle est la réalité des propos du Rassemblement National en dehors des grands plateaux télé où on a l'impression que maintenant c'est un parti comme un autre, alors que pas du tout. Après, une fois qu'on a un peu épinglé tous ces gens là donc on se répartit, hein, on était trois journalistes à ce moment là on avait embauché quelqu'un pour nous aider à couvrir les élections à ce moment là on a décidé de mettre un peu de se répartir un peu les candidats, une bonne liste un peu selon les villes de plus de 15 000 habitants, quoi. Et après, on a un peu poncé tout ça, mis tout ça dans un tableau. Et puis après, dans l'outil que nous avait fourni Upian, enfin qui est sur Airtable d'ailleurs, pas vraiment leur outil à eux. Mais tout ça derrière nous a permis de pouvoir un peu concocter cette carte qu'on a sortie quelques semaines avant le premier tour des élections. Et de grossir le chiffre au fur et à mesure. D'abord, je crois qu'une semaine ou 10 jours avant le premier tour, on est à 150 candidats RN problématiques, donc que l'ensemble des médias ont épinglé. Et avant le deuxième tour, on est à 250. C'est quand même beaucoup. Et nous, en fait, ce taf-là, pourquoi on le fait ? On le faisait aussi pour avoir un chiffre assez représentatif, assez fort, où on se disait, les rédactions vont avoir du mal à passer outre un peu ce genre de statistiques et au moins poser la question à chaque fois au ténor du parti, à Jordan Bardella, à Marine Le Pen, et donc un peu mettre des grains de sable dans leur machine qui, en dehors de ça, malheureusement, roule plutôt bien parce que ils sont assez peu confrontés à ces faits-là globalement, quoi. Et donc, c'est influé, comme j'avais dit, sur le débat politique et médiatique. Donc, un peu voilà pour, pour la carte, je ne vais pas faire trop long non plus pour expliquer la carte au FAF aussi, si j'ai encore un peu de temps.
Je sais pas si bien sûr. Je veux bien, ouais, on peut se remettre sur la carte au FAF. J'allais juste dire aussi, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On veut que ce soit, on aimerait que ce soit participatif, donc je peux aussi reprendre les questions ou alors les intervenants intervenantes qui sont avec moi. N'hésitez pas aussi à répondre directement dans le chat. Mais je me disais aussi, peut-être tu peux présenter la carte au FAF rapidement, et ensuite j'avais quelques questions aussi de comment. J'imagine, du coup, vous avez pu peut-être anticiper certaines choses en publiant cette carte avant les municipales. Est-ce qu'il y avait certaines intuitions, hypothèses que vous aviez en termes de résultats de cette carte que vous avez pu anticiper avec les scores des municipales? Ça, c'est une première question. Et ensuite, deuxième question, on sait aussi que, du coup, l'extrême droite fait des cartographies sur l'extrême gauche. Street Press est dedans, j'imagine, comme média assez visible. Comment vous gérez ça? Comment vous le vivez? Est-ce que vous, il y a une certaine répression journalistique à ce niveau-là? Et comment vous gérez? Et sinon, je vais partager. Ouais.
L'autre. Pour répondre rapidement sur la question de qu'est-ce qu'on imaginait, à la fois par la carte avec le Nutri-Score que vous pouvez voir là, et à la fois par les bruits bigalos, c'était évidemment de montrer où étaient les principaux risques. Hein. Et bon, à ce niveau-là, quand même, on trouve que les villes qui malheureusement avaient le score, des scores favorables pour basculer, ont malheureusement basculé. Donc à ce niveau-là, le FAFO score qui a été établi par un chercheur qui s'appelle Alessio Mota, qui s'est basé en fait sur toute une méthodologie passée sur les précédentes élections à la fois nationales et locales, a tapé plutôt juste, hein, malheureusement, sur certaines villes. Je pense à Montauban, évidemment, à Nice, ce genre de choses. Et nous, après, évidemment, quand on décide d'y aller, c'est qu'on sait qu'on va avoir un gros chiffre derrière pour montrer quoi. Il va y avoir des histoires à raconter et qu'on ne fait pas ça en se disant il n'y aura que 20 points sur la carte. Globalement, on savait qu'on s'en allait parler de plusieurs centaines. Et moi, j'avais un peu plus parié au niveau de 300 candidats, mais je pense qu'il nous a vu la progression sur la fin dans laquelle on avait des révélations. Je pense qu'on les aurait atteints si on avait une semaine de plus de recherche, parce que déjà on a sorti 10 derniers candidats je crois que c'était juste le vendredi avant le deuxième tour, quoi. Donc vraiment on était quand même un peu dessus. Et d'ailleurs, dans la méthodologie pour trouver des infos, donc chacun va un peu chercher sur les gens, une fois que les cartes, enfin les listes sortent aussi, ça nous permettait d'aller voir les colistiers et tout, et de pouvoir vraiment faire des articles thématiques. Typiquement à Brest, il y avait, je crois, 6 candidats sur la liste du RN qui ont été épinglés par un de nos pigistes là-bas. Nous, on a utilisé des jeux de données où on a repris des listes qui étaient vraiment le pire de l'extrême droite sur les élections européennes de 2019 et 2024. Et on a, grâce à l'aide, pareil, d'un chercheur qui s'appelle Kevin Vacher, on a pu trouver en fait des candidats qui se présentaient sous l'étiquette du Rassemblement National, alors qu'avant, ils avaient été candidats pour Renaud Camus, pour Florian Philippot, enfin voilà, des partis que le RN aujourd'hui essaye de se tenir loin, quoi. Mais on voit aussi à quel point il attire à ce niveau-là. Donc voilà un peu pour ce qu'on espérait, comment on a pu travailler. Sur la carte au FAF, c'est un projet mis en place dès 2023, où en fait on a dit qu'on allait cartographier l'extrême droite radicale, donc hors du rassemblement, enfin des partis du Rassemblement National et de Zemmour, globalement. Et en fait, donc voilà, ça donne cette carte où on a divisé en plusieurs familles. Il y a à la fois donc les nationalistes révolutionnaires, merci pour les familles, les nationalistes révolutionnaires qui sont en fait les néo-fascistes, les monarchistes, donc principalement l'Action française, les catholiques intégristes, là ça va être vraiment des groupes qui pour nous ont une énorme importance en France et que pourtant on parle assez peu, typiquement la Fraternité Saint-Pédis, les identitaires évidemment qui sont maintenant très bien connus avec Némésis, la cocarde et tout ça, et les confusionnistes qui sont plus là la branche qui essaye de se faire passer parfois pour des gens de gauche alors qu'ils sont très très bien d'extrême droite et typiquement égalité, réconciliation. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu disais sur le fait de se retrouver sur des cartes de l'extrême droite. Typiquement, Alain Soral était sur la carte du média d'extrême droite frontière, la carte de l'extrême gauche, simplement parce que comme il est antisémite, bah, du coup, il est pro-palestinien et donc il se retrouvait sur cette carte en même temps que, bah, oui, Street Press, j'en sais, Quotidien et ainsi de suite. Donc, ça n'avait absolument aucun sens. Donc, c'est pour ça que pour répondre à ta question, bon, nous retrouver sur cette carte-là, sachant qu'en plus, enfin, clairement, eux, enfin, ces gens, malheureusement, heureusement, ne savent pas travailler, enfin, n'aiment pas travailler, même, je pense, parce qu'en fait, la plupart des fiches étaient quand même faites avec de l'IA. Enfin, moi, j'ai une fiche personnelle sur la carte de frontière. C'est la moitié des informations ne sont pas vraies dedans et c'est même pas des informations. Enfin, ils disent que j'ai travaillé pour des médias alors que j'ai pas travaillé pour eux. C'est pas, enfin, voilà, c'est pas des informations de ouf non plus, même si c'était le cas. Mais bref, donc tout ça est mauvais. C'est pas très, enfin, nous, ça nous fait un peu. Même pas souffler, en fait, ça nous fait plus marrer qu'autre chose d'être sur ce genre de carte. Là où, par contre, ça nous fait pas marrer, c'est évidemment toutes les menaces qu'on prend lors de la publication du... En gros, nous, cette carte, elle est née donc en 2024. Et avant ça, en 2023, on avait publié une plateforme pour dire « Envoyez-nous des infos » et ça va servir justement à cartographier l'extrême droite. Et ça, déjà, ça avait provoqué un torrent de haine et de propos violents sur les réseaux sociaux, hein, qui vraiment... retourner le stigmate en disant qu'on était la nouvelle Gestapo qui allait cartographier les résistants. Et donc, on a reçu énormément de messages, que ce soit sur nos boîtes mail ou sur, sur Twitter notamment, où par exemple, ça disait « Je rêve de venir vous nettoyer au fusil d'assaut, Street Press doit être le prochain Charlie Hebdo », ce genre de choses. Bon, voilà, c'est des trucs qu'on reçoit constamment. Là encore, ce qu'on a eu, parce que cette carte au FAF, elle a donné un livre qui va sortir le 29 mai prochain, qui s'appelle Extrême danger. Typiquement, quand on a annoncé le bouquin, on a reçu là un mail, je l'ai vu tout à l'heure, partagé par une collègue, où ça nous disait on va vous gazer, bande de sales rouges, salut à la victoire. Enfin voilà. Donc, c'est des trucs qui sont choquants quand ça arrive, et en même temps, bon, le propre. Maintenant, ça nous fait, nous, en tant que tels, enfin, les personnes qui sont dédiées à l'extrême droite chez Street Press, ça nous fait plus grand-chose aujourd'hui, parce qu'en fait, on a malheureusement l'habitude de ce genre de choses. Mais après, bon, pour en parler avec des proches, ce genre de choses, bon, bah, ça reste toujours très choquant pour elles et eux. Mais c'est vrai que nous, bon, bah, on essaye de faire attention au maximum, de faire attention à la fois à nos identités, à nos proches, à ne pas montrer trop de choses. Alors, c'est toute une gymnastique, hein, évidemment, mais bon, pour l'instant, on a réussi plutôt bien. Et donc, voilà un peu pour la réponse à ta question. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres.
Non, c'est top. Merci beaucoup. Vas-y. Peut-être qu'on va prendre les questions à la fin, si ça ne vous dérange pas. Ou si Dominique, tu veux la poser très rapidement. Vas-y, je te laisse. Je vois que tu as levé la main.
Non, si c'est à la fin, je poserai la question à la fin. Si ce n'est pas maintenant. Je pensais que c'était maintenant.
Si c'est direct, si vous avez une question directe pour Street Press, c'est qu'on peut la prendre très rapidement. Et...
Oui.
Non, pardon. On va la
prendre. D'accord. On va prendre maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour à tous et à toutes. Vous avez parlé tout à l'heure des brebis galeuses qui ont des casseroles assez lourdes. Quel est le contenu de ces casseroles? C'est-à-dire, c'est quoi les choses qui les amènent à avoir ces casseroles? Sur le plan juridique, j'entends.
Elles sont très diverses et variées. Ça va être des histoires, des condamnations pour violence, que ce soit violence conjugale, violence raciste. Ça va être énormément de propos raciste, homophobe, transphobe, antisémite sur les réseaux sociaux, principalement. Hein, franchement, il y en a eu tellement et tellement de différents que je ne pourrais pas forcément vous dire, mais il y a les personnes qui étaient épinglées aussi parfois pour des positions climato-sceptiques, enfin, très diverses et variées. Il y avait typiquement dedans, Christophe Barthez qui avait posé devant la pancarte qui disait « Va faire la soupe salope » à Sandrine Rousseau. Enfin, voilà, là, c'est l'élément qui me vient le plus en tête. Mais comme j'ai dit, Concarneau, typiquement, le Christian Pérez, donc, qui était le candidat du, du RN, lui, voilà, faisait des posts Twitter pour où il comparait l'équipe de France de football à des clandestins et qui disait « je rêve d'une chasse, impossible à nommer ici, émoji clin d'œil ». Bon, je n'ai pas trop de doute sur ce qu'il voulait dire, il ne parlait pas de chasse aux faisans. Donc voilà, c'est un peu rappeler tout ça. On avait aussi épinglé, par exemple, un candidat dans la petite ville de Préau qui a été élu, qui s'appelle Thibault de la Tocquenay, conseiller régional FN et RN depuis 1992, et qui, lui, a été un membre de groupe paramilitaire dans les années 80-90 contre le gouvernement sandiniste au Nicaragua. Il a été en Croatie, il a été au Liban, où il a fait partie des phalanges chrétiennes, qui se sont caractérisées notamment par certains massacres de Palestiniens. Donc, c'est très, très divers et varié, mais enfin, il y a de tout, globalement. Il y a de tout.
Merci beaucoup pour ça. Je trouve que ça fait un bel aperçu général, en tout cas, d'avoir ces cartographies. Et peut-être, du coup, je vais passer la main directement à l'équipe de Reflet. Je vais vous nommer présentateur et peut-être vous pouvez nous guider à travers l'outil que vous avez développé, que moi, je découvre, que j'ai découvert très récemment. Donc, si vous voulez bien nous guider à travers l'outil et nourrir un peu… peut-être un peu de qualitatif aussi sur les groupuscules d'extrême droite et comment ça se matérialise concrètement et comment ce maillage, cette galaxie s'entretient et se nourrit.
Je vais repartir en fait du tout début. Je vais essayer de faire court et de vous montrer un peu comment fonctionne la cartographie, mais juste pour vous dire pourquoi on a fait ça, ça part d'une enquête qu'on a faite sur une société d'influence qui s'appelle Avisa Partners. Cette boîte, en fait, il y avait un peu les usual suspects, des gens qu'on connaissait dedans, qui faisaient des opérations d'influence depuis le début d'Internet, dans les années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Et il se trouve qu'il y a eu toute une série d'enquêtes publiées par de nombreux médias dessus et sur cette boîte, parce qu'ils modifiaient les pages Wikipédia pour le compte de leurs clients, sous pseudo, etc. Donc, on a un peu refait, nous, derrière, notre propre enquête sur le sujet qu'on connaissait un petit peu. Et en fait, je me suis mis en tête de poser sur un tableau blanc toutes les entités qui étaient liées à cette enquête, et avec un outil qui s'appelle Maltego, que vous pouvez télécharger par ailleurs, maltego.com, je pense. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que, en fait, quand je liais les uns aux autres, eh ben, je dérivais et ça allait super loin parce que je partais de cette petite boîte d'influence qui a ses entrées à Paris et je me retrouvais à la fin avec des gens, des anti-IVG, des le galou, enfin des gens qui sont vraiment à l'extrême droite depuis toujours. Et je me suis dit, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'arrête de tirer ces fils parce que je ne vais jamais arrêter, ça va être sans fin. Et donc, je m'arrête là. Voilà. Et c'est là où c'est vraiment ancré dans ma tête. Je me suis dit, mais il y a une vraie galaxie avec des gens qui sont à la fois des gens dans un parti politique, c'est le RN, mais aussi... on le voit actuellement avec Bolloré, avec son petit coming out sur le cinéma, etc. Donc la culture, les milliardaires qui mettent leur argent au service d'une idéologie rance. Donc ça va très loin. Il y a toute une série de médias qui sont, entre guillemets, hein, qui se sont créés et qui se sont installés, qui ont maintenant un public. Et donc tout ça est au service de l'arrivée au pouvoir de ceux qui sont les mieux placés pour y arriver, le RN. Bref, donc on s'est dit, ben ça, on va essayer de faire cette cartographie. Alors comment on fait ? Ben, en fait, on commence par se dire qu'on va faire une fiche sur chaque entité. Chaque entité, c'est une personne, un média, un milliardaire, un politique, voilà. Une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on reste court. Donc, on fait des fiches qui font un maximum 2000 signes. Et à l'intérieur de ces fiches, quand on les rédige, c'est les journalistes qui les rédigent, on va, à chaque fois qu'on parle d'une autre personne ou d'un parti politique ou d'une autre entité, on va créer un lien vers cette autre entité en interne. Et ce lien, on va le définir comme, par exemple, si c'est Pierre d'Orsterin, on va dire, il finance l'application Quanto. Donc le lien, ça va être finance. Ou est lié à une fréquente ou scindé de pour un groupuscule qui ou héritier de d'un autre groupuscule. Une fois que les liens sont faits, si les autres fiches existent, à ce moment-là, les liens se créent dans la cartographie. La cartographie se génère automatiquement sur la base de ces liens-là. Ça, c'était le truc de départ. Et puis, on s'est dit, bon, mais juste une cartographie, on s'est rendu compte qu'on a travaillé 4 mois, 4 personnes, et on s'est rendu compte qu'on arrivait à peu près à 450 fiches. Une fois qu'on avait ces 450 fiches, eh bien, on s'est rendu compte que la cartographie commençait à devenir assez illisible. Je vous la montre. Voilà. Vous voyez que, en fait, il y a des points qui sont tout petits, qu'on voit mal. Il faut passer dessus pour les voir clairement. Donc on s'est dit, bah, c'est pas suffisant comme porte d'entrée dans la donnée. Il faut aussi que on fasse d'autres portes d'entrée. Alors, cette autre porte d'entrée, c'est par exemple une carte qui va vous permettre de voir l'extrême droite près de chez vous et de vérifier quels sont les gens à l'œuvre autour de chez vous en région. Les fiches, bien sûr, c'est celles dont on parlait tout à l'heure. Si une fiche existe, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des liens ici qui vous permettent de naviguer, alors ici, de fiche en fiche, ou de voir dans la cartographie où se situe cette fiche. Notre idée aussi dans cette histoire de cartographie, c'était qu'il y a énormément d'enquêtes. C'est un bon client pour nous. Alors, c'est pas le cas sur la fiche que je suis en train de vous montrer, mais il y a énormément d'enquêtes de la presse indépendante, mais aussi mainstream, nationale ou locale, sur des entités d'extrême droite. Et le problème de ces enquêtes, c'est qu'au bout d'un moment, bah, elles disparaissent au fin fond des sites. On les voit plus, on les oublie. Il faut les retrouver via une recherche qui peut parfois pas toujours super efficace. Et donc, on s'est dit, bah, sur chaque entité, on va pointer des enquêtes qui ont concerné cette entité. Et là, ce que vous voyez à l'écran, bah, il y en a une dans la Croix, une dans l'UB, une dans le Monde et une dans l'UMA, sur le canon français. Et ça va faire revivre ces enquêtes. Voilà. Et après, vous voyez les liens entrants ou les liens sortants. Alors, si je prends une fiche, par exemple, comme le meilleur client de tous les temps, qui est Jean-Marie Le Pen. Là, vous allez voir, on ajoute les citations qui vont mal, c'est-à-dire en fait les citations racistes ou antisémites ou qui posent des problèmes pour les personnes homosexuelles, le cas ici. Et ensuite, on va lister les condamnations également. Parce que ça nous paraît important de montrer que bah, ces gens-là, ils ont un petit problème de respect de la loi. Et bon, là, évidemment, Jean-Marie Le Pen, c'est énorme. Il a un palmarès fantastique. Mais voilà, pour d'autres, voilà. Donc, on a les fiches. Et puis, pour finir, on a ce qu'on a appelé des stories qui nous permettent de prendre le visiteur par la main et de lui expliquer un bout de cette galaxie et dire ben voilà, bon là c'est vous voyez au départ quand vous arrivez sur le site, on vous propose de revisiter l'histoire de l'extrême droite en France. Donc vous voyez, ça remonte loin, parce que c'est la contre-révolution, le nationalisme, l'affaire Dreyfus et l'Action française, les ligues fascistes, la collaboration, le continuum fasciste, le Front National, l'offensive partidaire, tous les partis d'extrême droite, la branche radicale, et voilà, on a fait le tour. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé des stories. On en a une autre qui est publiée, mais on va en avoir d'autres qui vont apparaître, une sur le financement, les financements de ce terrain, qui vous permettent de voir un petit peu sur quels outils il s'appuie pour son offensive, entre guillemets, culturelle, pour imposer son agenda d'extrême droite. Et donc, voilà, on fait un petit panorama de ces choses-là. Bon, voilà à peu près comment fonctionne cette cartographie. On peut évidemment, dans la vue en réseau, faire une recherche. Par exemple, si vous cherchez l'application Kanto qui recense des champs nationalisto-nazis, et ça donne des trucs parfois rigolos, hein, parce que dans nos fiches, on s'appuie beaucoup sur des choses déjà existantes, donc des articles, des fiches Wikipédia, voilà, toutes sortes de sources ouvertes. Et de temps en temps, on fait aussi un peu de recherche perso, ce qu'on appelle de l'OSINT, du renseignement en source ouverte, ou le l'OSINT un peu poussé, où on cherche des infos qui ne sont pas forcément très visibles. Et là, par exemple, sur Lancelot Gallais, qui est un des cofondateurs de Kanto, il y a sa fiche qui s'ouvre quand je clique dessus, mais je vais aller voir la fiche complète. Lancelot Gallais, on s'est rendu compte qu'il utilisait un pseudo, sous le nom Mouloud Chevalier, sur son profil S-Mule, il diffusait une chanson dont les paroles sont répétitives, hein, c'est les youpins dans les chambres à gaz sur un fond de techno. Et voilà, et on fait une petite copie d'écran de sa page S-Mule. Voilà, donc ces gens-là, ils se présentent aujourd'hui comme défenseurs des juifs. En fait, ils n'ont jamais perdu de vue leur ADN initial. Voilà, ce genre de choses qu'on peut découvrir au fil de création de fiches.
Et juste avant de passer la main à Ricardo, j'avais une petite question. Déjà, merci beaucoup pour ce travail absolument énorme. J'imagine que c'était pas mal de travail. Est-ce que toi, tu vois un peu au niveau macro en construction tout ça, notamment je pense à la frise historique, est-ce que tu vois des remaniements, des évolutions dans la structuration en fait de ces extrêmes droites au pluriel? Est-ce que par exemple l'emprise sur les médias, est-ce que ça c'est quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que tu vois un peu comme tendance sur les 5, 10, 15 dernières années?
Bah oui, sur les médias. Après, je vais laisser parler Ricardo aussi sur ce sujet. Je pense qu'il y a peut-être des choses à dire, mais sur les médias, pour ce qui me concerne en tant que journaliste, oui, ça c'est clair. Depuis une bonne dizaine d'années, il y a des milliardaires qui maintenant, aujourd'hui, s'affichent comme étant d'extrême droite et ayant explicité leur souhait de mettre ces médias au service de leurs idées d'extrême droite, très clairement, ouvertement. Et oui, ces gens-là ont pris la main sur des journaux et peu à peu, notamment Bolloré, c'est le meilleur exemple, mais il n'est pas seul, ont littéralement vidé les rédactions de leurs journalistes normaux. Et ils ont mis des gens qui sont plus des propagandistes que des journalistes. On voit ce qu'est CNews, qui était auparavant une chaîne de télé normale. Hein. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc oui, il y a une transformation en profondeur de ces médias pour devenir des outils de propagande et de lavage de cerveau, quoi. Enfin, CNews, c'est vraiment un exemple catastrophique. Donc, on voit bien que, en plus, on voit bien que se met en place un truc assez classique, hein, sur Internet, mais une espèce de cercle vicieux où il va y avoir, par exemple, CNews qui va faire un plateau sur un fait divers sans aucun intérêt va le monter en épingle pendant 3 jours. Et ensuite, Europe 1 va reprendre le truc pour relancer quand le truc va un peu s'éteindre. Ensuite, ça va être repris dans le journal du dimanche et ainsi de suite. Et à la fin, on crée une bulle sur un sujet qui n'a même pas lieu d'être, qui aurait, enfin, partout a fait une brève, sauf chez eux. Ça reste en boucle pendant des jours et ça devient un sujet. Et à la fin, on se rend compte que les autres rédactions deviennent perméables à ce genre de choses. Et donc, vont se dire, mais attends, s'ils en parlent quand même depuis 3-4 jours, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Un des meilleurs exemples, je pense que Christophe ou Ricardo seraient mieux placés que moi pour en parler, mais l'affaire de Ranke, où toute la presse plonge dans cette histoire en disant, ah bah oui, c'est une honte, c'est une attaque de l'extrême gauche sur l'extrême droite, alors qu'en fait, c'est tout le contraire, c'est l'extrême droite qui était venue pour en découdre. Et où à la fin, on finit avec un hommage à l'Assemblée nationale, où finalement, la présidente de l'Assemblée nationale finit par dire, ah oui, bah tiens, 3 jours après, ah, peut-être qu'on n'aurait pas dû, mais enfin, tout le monde, tous les gens qui travaillent sur ce sujet avaient vu que, bien sûr, on n'aurait pas dû et que le type était un néo-nazi. Donc, c'est complètement faramineux, mais je pense que l'influence des médias d'extrême droite d'aujourd'hui a été très importante sur cet emballement médiatique complètement à côté de la plaque, en fait. Ça, c'est sûr, on pourra en parler 5 heures, je vais essayer de faire court, pardon.
Non, merci, merci, c'était très concis. Je vais laisser Ricardo réagir aussi et peut-être plus explicitement sur les sur les groupuscules d'extrême droite radicale, peut-être plus violente. On avait parlé un petit peu du comité du 9 mai, de la cocarde. En tout cas, moi, je vois à travers aussi mes enquêtes que il y a une matérialisation de l'extrême droite sur les territoires, mais qui passe aussi effectivement beaucoup par les réseaux sociaux, comme tu disais, mais aussi en fait qui produit un discours raciste complètement décomplexé aujourd'hui, qui n'existait pas forcément avant. Du coup, je voulais t'interroger là-dessus, Ricardo, sur ces évolutions des dernières années et sur les groupuscules d'extrême droite plus violentes. Et je profite aussi qu'il y a quelques questions dans le chat, si vous voulez y répondre directement, n'hésitez pas.
Merci. Je voulais quand même revenir un petit peu sur deux petits points, hein, pas très vite. Donc, sur la question de la cartographie de frontières, donc, bah, il faut quand même, une fois qu'on voit le travail qui était fait, c'est comme Christophe il a dit, ils ne travaillent pas. Hein. Ils ne connaissent pas les idéologies de gauche, ils sont confus, ils placent les personnes, ils ont, tu vois, ils connaissent pas les personnes, les journalistes, les entités de gauche, voire d'extrême gauche, ils mélangent tout. Moi, je suis dedans aussi, et le projet en extrême, donc que répertorie les symboles utilisés par l'extrême droite, est dedans aussi. Bon, c'est un truc confus, mal fait, ils ne connaissent pas. Alors que nous, en fait, et c'est ça que c'est quand même extraordinaire, c'est que nous, des journalistes qui sont sur nombreux médias, mais surtout sur la presse, pas pareil, donc les médias indépendants, ils s'intéressent vraiment à l'extrême droite pour la connaître, vraiment pour la connaître, pour pouvoir la combattre. Voilà, c'est le slogan de la Horde. Alors que eux, de leur côté, c'est de la haine qui les intéresse. Il n'y a pas vraiment un travail de déconstruction, parce qu'une fois qu'ils vont vraiment comprendre qu'est-ce que c'est les mouvements de gauche, ils vont comprendre que, voilà, ils sont assez courageux déjà, et après, des logiques, ça ne les intéresse pas, parce que c'est des logiques que prônent la non-discrimination, l'égalité, etc. et tout ça. Donc, eux, ça ne les intéresse pas. Ça les intéresse, c'est l'inégalité naturelle, le racisme, l'homophobie, la transphobie, etc. et tout ça. Donc, bon, c'est des gens qui ne savent pas travailler, c'est des gens qui sont 100% dans la haine, et voilà, c'est leur truc. Après, seulement, parce que je vois qu'Antoine, il est encore en train de partager son écran. Antoine, si tu peux aller seulement vite fait sur des stories. Et avant tout, il faut quand même remercier Street Press pour la carte au FAF et
Carrément.
le fait d'avoir partagé avec nous en fait, la carte au, en fait, et les textes qui vont avec et tout ça, et que ça remplit quand même une partie de la cartographie, un travail que nous, on n'était pas obligé de faire, et que voilà, on le remercie. Ils sont cités, bien évidemment, et voilà, il ne faut pas l'oublier. Et donc, pour le pour, des stories, si tu plais, Antoine.
Oui,
Donc,
je montrais
on va, là,
la partie cartographe, elle est en partie ici. C'est l'extrême
ah,
droite
voilà.
radicale. On la voit parce que vous avez des filtres, vous pouvez faire apparaître les. Voilà, donc les stories. Oui.
Ben, le truc, c'est que l'idée aussi du site, au-delà de cartographier toute cette partie très complexe du réseau d'extrême droite, de cette galaxie-là, nous, on a trouvé quand même important d'apporter, de faire des genres de mini-enquêtes qu'on a appelées des stories, donc c'est des scénarios narratifs thématiques, dans lesquels on explique quand même un petit peu qu'est-ce que c'est l'extrême droite, qu'est-ce que c'est le réseau Sterrain. Nous, on va travailler et bientôt on va publier un article, mais aussi une story, c'est qu'est-ce que c'est la métapolitique. Enfin, l'idée, c'est aussi pas de rester dans cet aspect technique des fiches et d'un réseau, mais aussi d'apporter des explications en forme de mini-enquête, que nous, on puisse lire le texte, comprendre qui sont les personnages, comment ça a évolué dans le temps. Et ça, ce n'est pas que pour l'histoire d'extrême droite, ça peut être pour des réseaux plus récents, par exemple, comme les réseaux d'extrême droite radicale, que c'est quelque chose qui s'est créé surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, voilà, je voulais quand même apporter quand même un petit peu plus de précision sur des questions d'histoire, parce que je pense que pour la grande majorité des gens, et d'ailleurs c'est ça que c'est très bien fait par Street Press, c'est des cartographies qui sont aussi avec une certaine simplicité, accessibles au public, et ça c'est quelque chose que c'est important. Et donc nous, on a voulu aussi apporter dans notre travail cette partie-là. Après, pour la question de l'extrême droite radicale, et comment elle se mute dans le temps et comment elle se renforce dans le temps. Je pense qu'aussi Christophe, il aura beaucoup de choses à dire. Moi, je travaille depuis moins de temps qu'Antoine ou Christophe. Donc, moi, je suis journaliste à peu près depuis 10 ans. Donc, et je ne suis pas français d'ailleurs. Donc, ils ont une vision beaucoup plus large de l'extrême droite radicale en France. Mais moi, qu'est-ce que j'ai pu observer et corroborer les dernières années, c'est qu'il y avait tout un tas de discours qui étaient circonscrits à l'extrême droite radicale, donc des discours qui étaient surtout dans les sphères vraiment néo-nazis, antifascistes, purs et durs, que, à fur et à mesure des années, ils ont passé aussi, ils ont commencé à être utilisés par des mouvements beaucoup plus qui interviennent beaucoup dans l'espace public comme les identitaires, donc à partir des années 2010, et plus tard dans les médias d'extrême droite. Enfin, les médias d'extrême droite qui ont quand même des devoirs de neutralité, des devoirs déontologiques, qu'ils ne respectent pas du tout d'ailleurs, mais que ces discours-là qui étaient circonscrits à l'extrême droite radicale, comme la théorie du grand remplacement, qui de base c'est une théorie antisémite quand même, il faut le dire, il y a eu cette plafond de verre qui était cassé, et que toutes ces théories, elles se propagent aujourd'hui dans les médias, dans les masses médias, comme CNews par exemple, Europe 1, etc. En même temps que ça arrive, donc il y a un discours d'extrême droite qui prend aussi de la puissance, que va avec la puissance, l'augmentation de la puissance d'extrême droite parlementaire. Donc, surtout les RN, mais on pourrait aussi parler de Reconquête, des partis un peu plus petits comme les Patriotes, ou encore plus petits comme les Nationalistes, par exemple. Mais en même temps, toutes ces partis politiques, ils gagnent de la puissance aussi. Et donc, l'extrême droite radicale, donc l'extrême droite extra-parlementaire, ils vont se sentir de plus en plus à l'aise dans l'espace public. Ils vont se sentir de plus en plus à l'aise pour exprimer leurs opinions dans l'espace public, mais aussi leur violence. Et c'est ça que depuis une dizaine d'années, on voit, on corrobore qu'avec des enquêtes qui étaient menées par Street Press, Libération, Le Monde, mais aussi des petits médias comme Rapport de Force, qui a fait aussi une cartographie des violences d'extrême droite en 2023, si je ne me trompe pas. Et on observe, bah, on on observe qu'il y a une augmentation, même si leur nombre il est entre 3 000 et 5 000 militants d'extrême droite violents, leurs actions sont de plus en plus violentes. Et en plus, avec la création de qu'est-ce qu'on appelle les Active Clubs en France, donc c'est un mouvement issu des États-Unis par une personne, par un néo-nazi qui s'appelle Robin Trundle, on va voir que cette tendance à tabasser de gauchos, elle est de plus en plus visible dans l'espace public. Et elle attaque aussi des projets que vous en parlez dans votre cartographie, donc des projets écologiques, donc sont contre des projets qui ne sont pas du tout écologiques, donc des bassines, les ZAD, etc. Et que on voit qu'il y a de plus en plus aussi d'attaques envers les militants d'extrême gauche sont sur le terrain. Donc, en gros, je pense que à peu près, très succinctement, on peut quand même affirmer ceci.
Merci beaucoup. On va pouvoir avoir une petite discussion à la fin aussi de questions générales que je poserai à tout le monde, mais je voulais m'assurer que Jean ait aussi du temps de parole pour nous expliquer un petit peu l'initiative qui a été montée dans l'Orne. Si tu pouvais nous contextualiser un petit peu comment ça a été monté, quelles étaient les motivations derrière et pareil un peu étape par étape la construction de cet observatoire local où vous avez fait justement une galaxie, mais au niveau local, quoi. Et avec, du coup, peut-être une perspective un peu plus terrain.
Oui, alors, du coup, nous, on est dans un territoire, donc là, c'est un département rural. On a quand même quelque chose de particulier qui est la présence de l'Institut La Croix des Vents. Donc, c'est une galaxie de catholiques identitaires, traditionnalistes, intégristes. Et qui en fait a été souvent pendant très longtemps lié à Academia Christiana et à Victor Aubert notamment qui habite dans les environs. Et ça fait que enfin ce lieu est assez attractif. Des gens déménagent de toute la France en fait pour aller emmener leurs enfants étudier dans cette école privée hors contrat qui va jusqu'au lycée. Et ensuite au niveau plus parlementaire, municipal, on n'avait pas de député RN, mais ça a été de peu. Il y a une des circonscriptions qui était bascule. Ils ont fait 45% dans deux circos, 35% dans l'une. Et il y a juste une députée PS, les deux autres sont des députés de droite, du coup. Donc, ils ne sont pas passés de peu. Et donc, avec tout ça, il y a eu une émulation, une ébullition aussi, j'imagine, dans beaucoup d'endroits en France par rapport à la question de l'extrême droite. Et donc, il y a eu plusieurs choses en fait, qui se sont créées un peu en parallèle. D'un côté, il y a eu une boucle signal qui a été créée, qui s'appelait Vigilance, enfin qui continue d'exister d'ailleurs, hein, qui s'appelle Vigilance contre l'extrême droite. Et donc là, les gens vont se diffuser des infos un peu locales sur ce qui se passe, mais aussi diffuser les éventuelles campagnes d'affichage qui sont faites, et du coup, pour que des personnes viennent recoller par-dessus. Il y a eu aussi une réaction face à un projet de nouvelle école, en fait, qui est lié au projet d'excellence ruralité qui est lié à ce terrain. Donc là, il y a eu une réaction, une résistance intersyndicale, en fait, qui a débuté et qui a permis à ce que le point disparaisse, en fait. C'est-à-dire que maintenant, sur le projet d'excellence ruralité qui veut s'implanter dans toute la France, il n'y a plus le point dans l'Orne. Dans tout ça, en fait, il y a eu donc cette idée de se regrouper pour enquêter, en fait. Enquêter, un petit peu donner des infos. L'idée, c'était d'une part de faire bénéficier le tissu militant local de la question de la structuration de cette galaxie de l'extrême droite qui n'est pas forcément perçue. D'être capable de reconnaître des gens en fait qui sont problématiques avec qui on parle. La dernière fois, je crois qu'en manifestation a été repérée justement une personne d'extrême droite. C'était la manif du 1er mai. Tout ça, en effet, si on ne connaît pas ces personnes-là, en fait, ça permet aussi qu'ils puissent évoluer dans des cercles où ils n'ont rien à faire. Et donc, il y a eu un travail d'enquête qui a été fait sur, bah, les, en fait, sur les réseaux sociaux, etc., pour un peu comprendre qui étaient toutes ces personnes, et ce qui a conduit à, ensuite à publication d'un trombinoscope qui a été partagé, qui est semi-public, puisqu'il a été partagé en fait, aux organisations de gauche, aux associations, etc., avec des retours plutôt, plutôt positifs sur ce travail. Et l'idée, c'était aussi de montrer, bah, voilà, comme ça a été déjà dit, il y a une porosité totale entre l'extrême droite radicale, les catholiques intégristes, Reconquête et le RN. Par rapport à tout ça, ce que ça a permis, en fait, des gens se sont emparés en fait, de ces informations-là. Et après, il y avait aussi d'autres personnes qui... c'est pas structuré, en fait, donc il y a des personnes aussi qui sur différentes informations peuvent agir d'elles-mêmes. Donc, mais il y a eu clairement des effets concrets. Il y a eu des articles qui sont parus dans l'Ouest France au niveau du lien entre Johan Robin, qui est un militant ultra-violent, qui est passé chez Reconquête, et qui était en lien avec le RN. Et le RN a dû s'éloigner publiquement en fait, de cette personne-là. Dans les faits... il n'en est pas vraiment rien, mais en tout cas, publiquement, ils ont été obligés de le reconnaître. Il y a eu un collectif qui s'est monté aussi dans une ville, puisque Victor Robert a essayé de créer en fait un bar en réutilisant un peu les codes de la gauche sur des tiers-lieux culturels, etc. Et un collectif d'habitants s'est constitué en fait pour avertir la population. Donc, ça a été un boitage notamment qui a plutôt bien fonctionné. Puisque, il ne faut pas se mentir, Victor Robert avait, et Academia Christiana et l'Institut Croix des Vents, un historique dans cette ville, les gens sont au courant. Et du coup, ils étaient sensibilisés, et quand ils ont vu, ça ne semblait pas du tout farfelu, en fait, qu'il puisse y avoir un bar qui essaie de s'ouvrir. Et ensuite, il y a eu la presse locale, suite à des informations en fait, qu'ils ont reçues, ont pu remettre les liens en fait avec Victor Robert qui a été confronté et qui est obligé de changer plusieurs fois de discours parce qu'il il a été aperçu en fait il y avait un tweet qui est ressorti de lui où il dit parlait de reprendre ce bar et ensuite il a été aperçu tout simplement dans le bar pendant les travaux de l'été 2026. Voilà un petit peu pour le topo global. Je sais pas trop si enfin voilà je Est-ce que je peux raconter de plus ?
Si, merci beaucoup, c'est très intéressant. Moi, j'ai pour accompagner des personnes qui font des enquêtes aussi, je me demandais un petit peu comment vous étiez organisé localement, avec qui ? Est-ce que c'est des réunions régulières avec un cercle cœur d'une dizaine de personnes qui filtrent certaines infos ou est-ce que comment vous aviez accès à certaines données tu vois, ce collectif d'habitants, et qu'est-ce qu'ils sont allés chercher comme type d'information et comme type de ressources. Et aussi, pareil, comment tu parlais un petit peu de faire en sorte, via le trombinoscope, que ça nourrisse un peu les réseaux militants. Est-ce que tu parlais un petit peu de comment ces résultats se partagent dans les réseaux militants et comment les gens s'en servent?
Alors, la particularité de l'Orne, je pense des départements ruraux, c'est qu'il n'y a pas de grosses villes. Et du coup, l'activisme ou le militantisme repose sur peu de personnes, en fait. Et du coup, en général, beaucoup des gens qui sont militants, on va dire, ont plusieurs casquettes. Et donc, il y a plein de boucles, en fait, qui existent. Et l'information, en fait, circule un petit peu comme ça, de proche en proche par rapport à ça. Donc, c'est comme ça que peuvent être diffusées un peu toutes les choses. Et ensuite, pour ce qui est de la recherche, oui, alors en effet, c'est tout simplement avec une création d'un compte Facebook, un compte Facebook, un compte Instagram, de rechercher, en fait, d'aller parcourir l'historique. Des personnes, de regarder les tweets, les photos, et au bout d'un moment, en fait, ben, on s'aperçoit que des gens sont sur la même photo, etc., et du coup, on essaie de comprendre pourquoi. La presse locale, on en a parlé tout à l'heure, en effet, fait un très gros travail. On peut retrouver des choses un peu anodines, en recherchant aussi sur Google des noms de personnes. Et donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Et je sais que, en gros, le collectif d'habitants, il me semble, ils avaient, je pense, c'était voir les statuts aussi de l'entreprise du bar. Et ça leur avait permis de trouver certaines informations, en fait, qui avaient été utiles pour faire un lien, en fait, avec Victor Aubert.
Ok, très bien. Merci beaucoup. Je pose la question aussi parce que on aimerait bien donner envie aux personnes de mener des enquêtes et d'essayer de les outiller dans ce sens-là. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on avait aussi on avait tenté de créer un outil que je vous partage ici. Si vous voulez, je peux vous le partager. C'est ce qu'on a appelé ça un kit d'enquête de territorial. C'est quelque chose qu'on avait. J'imagine que vous le voyez là. C'était du coup un kit d'enquête qu'on proposait à des militants et militantes locaux de se réunir pendant 2-3 heures et de dresser un peu un diagnostic territorial chez eux. Et donc du coup de revoir en revue quelles sont les préoccupations locales, qu'est-ce qui s'est dégradé peut-être en termes de services publics pour matérialiser un petit peu ce que ça veut dire quand on coupe dans les budgets des associations, etc. Quelles sont un peu les forces vives, les alliés et les ressources qu'on a autour de nous. Identifier vraiment localement les groupes d'extrême droite, même si on sait que c'est pas forcément... On l'a vu à travers la carte, il y a des groupuscules partout, mais ils ne sont pas forcément visibles dans tous les cantons, bourgs, villages ou villes, et que ça passe aussi beaucoup par des choses qui sont immatérielles. On parlait un peu de cette parole raciste-là, mais sinon, ça peut aussi être des bars ou des PMU qui soudain tournent un peu facho. Et aussi de voir un peu quels sont les moyens d'action pour aller plus loin. Du coup, c'était intéressant comme outil parce que c'était une trentaine de personnes qui se sont réunies là et qui sont juste posées des questions. Et ça a donné lieu à une soirée de restitution ensuite, où là, ils ont invité plus largement autour d'eux et c'était une cinquantaine, soixantaine de personnes. Et ils sont allés un peu plus loin dans leur enquête en proposant différentes tables. Je crois qu'il y en avait 3-4. Et sur la première, il y avait par exemple une énorme frise chronologique avec tous les événements vraiment structurants des 15-20 dernières années. Et les gens pouvaient rajouter sur le tableau au fur et à mesure des manifestations, des mobilisations, des habitudes, des moments de rencontre assez forts ou de lutte assez forts. Et aussi à l'inverse, des moments de basculement dans la lutte contre les idées d'extrême droite. Ça pouvait être l'élection d'une mairie ou alors un tag ou alors une certaine violence comme Crépol par exemple ou d'autres. Donc ça, c'était un stand qui se nourrissait au fur et à mesure. Il y en avait un autre aussi où ils avaient imprimé une énorme carte en fait de leur territoire sur, je ne me souviens plus de l'échelle exactement, mais ça jusqu'à la plus grande ville de plus de 50 000 habitants, je crois. Et donc, du coup, c'est hyper. Les gens sur la carte mettaient directement les lieux ressources, les lieux de repère, les espaces de sociabilisation. Ça, c'est typiquement des sociologues comme Benoît Coquart ou Félicien Foury qui ont étudié le vote FN, ou en tout cas le vote extrême droite en milieu rural, ont beaucoup parlé un peu de ces espaces de sociabilisation qui existaient avant et qui n'existent plus forcément aujourd'hui. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était l'enquête était elle-même un outil pour se rassembler, en fait, pour être tout à fait honnête avec vous. Parce qu'il faut aussi faire ses retours autocritiques. Et pour avoir participé à cet atelier et l'avoir un peu encadré, sur les 60 personnes, il y en a qui ne sont pas restées forcément jusqu'à la fin de l'exercice, qui nous ont remercié du travail qu'on avait fait, mais que pour eux, c'était surtout utiliser cet outil-là comme une excuse de se retrouver, en fait, et de se repérer en tant qu'alliés et de continuer à entretenir ces liens avec des personnes alliées et se reconnaître entre nous au niveau local, etc. Moi, je vais juste un petit peu partager cette expérience-là. J'ai mis le lien dans le chat, il est disponible en ligne. Donc, on propose aussi, on invite d'autres personnes à s'en saisir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et sinon, je voulais peut-être refaire un petit dernier tour et aussi laisser les participants et participantes qui sont là de poser dernières questions. Je ne sais pas si Christophe ou Ricardo voulaient dire un petit mot de la fin, peut-être sur comment ces outils peuvent nourrir nos espaces, nos luttes, qu'est-ce qu'elles permettent de faire et est-ce qu'on voit des pistes de résilience ou d'action. On a parlé par exemple des canons français. Donc, du coup, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est du coup financé par ce terrain. C'est des grosses fêtes de village qui, sur le papier, permettent de retisser du lien au niveau local. Mais en fait, bah, c'est 80 euros pour y participer. Ça mange du porc et d'autres viandes pour exclure les végétariens ou les musulmans ou autres. Le tout avec des petits bérets, etc., et des drapeaux français dans tous les sens. Donc, du coup, il y a aussi des réflexions qui se font sur comment créer des moments des contre-canons, qu'on ne va pas appeler des contre-canons, mais des moments de retrouvailles, de fêtes, mais qui soient accessibles, qui soient ouverts à d'autres, qui soient aussi solidaires. Donc, du coup, je voulais laisser un dernier tour de parole à Christophe, Ricardo et Jean, et ensuite on peut laisser aussi les gens dans la salle poser dernière question.
Je recommence, du coup, j'avais été le premier, donc je me suis dit que c'était à nouveau à moi, mais si quelqu'un d'autre veut parler avant, parce qu'il doit partir ou quoi, n'hésitez pas. Non, mais je trouve que du coup, enfin, toutes ces perspectives-là sont hyper intéressantes. Désolé, j'ai mon chat qui miaule en même temps. Ces perspectives-là sont hyper intéressantes et comme ce qu'ont un peu souligné Antoine et Ricardo en parlant de leur carte et en soulignant le travail qu'on avait pu apporter, bah, je pense que c'est ça qui est très important aussi, cet esprit de solidarité et de ne pas se tirer dans les pattes et justement permettre à chaque fois, de par notre travail, de procurer la meilleure information. Moi, j'ai vu passer des questions qui étaient de dire comment est-ce qu'on peut vous signaler, voilà, oui, je vois des élus ou mouvements ou associations identifiés localement par nous, militants qui seront encore sous les radars. À chaque fois, il y a des adresses en fait, de contact, donc il ne faut vraiment pas hésiter, même si c'est ce que vous estimez, c'est que le début d'une info, en fait, à chaque fois, ça peut donner derrière une enquête sur un groupe, ça peut assurer pareil quelque chose qu'on avait déjà, ça peut donner le dernier clou un peu sur ce qu'on était en train de construire aussi en enquête. Donc, faut jamais hésiter. Et ce que je vois moi aussi de tous les un peu, j'ai beaucoup de déplacements où je vais à la rencontre justement participer à des petites conférences où je présente le travail de Street Press, parfois à des gros groupes, parfois à des petits. Et en fait, moi, je vois que beaucoup de personnes, citoyens, militants à l'échelon local ont des stratégies d'enquête qui ressemblent énormément à ce qu'on fait, en fait, hein, qui ont à peu près le même niveau d'exigence. Moi, je travaille avec des journées, enfin, des militants antifascistes ou, enfin, voilà, tout simplement des citoyens qui réussissent avec de l'OSINT, donc l'observation en source ouverte, à avoir des choses incroyables. Enfin, un article qu'on avait fait sur un militant d'extrême droite néo-nazi qui était dans un régiment de l'armée à Besançon, bah, avait été justement, enfin, c'était un gars avec qui j'avais travaillé, qui était militant à Besançon, qui avait réussi à trouver le nom de famille de ce militant-là dans un article de presse locale qui datait d'il y a 15 ans. Enfin, et ce niveau, enfin, faut être motivé pour passer des heures dessus. Hein. Globalement, le travail journalistique, bon, on peut reparler des règles, du contradictoire, évidemment, tout ça. Enfin, on est pris, nous, par un certain nombre de choses. Mais globalement, il faut passer des heures et des heures à checker des trucs et parfois à accepter que une piste qu'on avait, ben, en fait, 5 heures plus tard, ça n'a absolument rien donné, quoi. Et voilà. Mais donc voilà, je pense que moi, ce que je garde des discussions, c'est qu'on a relativement, même tous entre journalistes et citoyens, un peu la même façon de travailler, et qu'on voilà, il y a la solidarité qui nous caractérise par rapport à l'extrême droite qui, comme l'a dit Ricardo, au moins ne sait pas travailler mal. Globalement.
Moi, je pense qu'il faut pas vraiment négliger le travail que les médias indépendants, ben, les médias en général, ont sur les réseaux d'extrême droite et aussi le travail que des militants militantes font sur le terrain. Alors, moi, je pense qu'il y a seulement une petite différence. Et d'ailleurs, il faut que vous sachiez qu'une grande partie du travail que les journalistes font, les sources sont toujours des personnes c'est des sources locales, ça vient toujours du terrain, c'est des personnes. Et après, une des grandes différences, si on peut dire comme ça, entre le travail qui est fait militant et le travail journalistique, c'est que exactement, il y a une forme de déontologie journalistique à suivre, au-delà du contradictoire que ça, c'est pas obligatoire, hein, mais qu'on le fait souvent parce que les médias, ils craignent toujours des procédures bâillons, et donc il faut faire le contradictoire, donner de la parole à des fascistes pour que les fascistes ils puissent dire qu'est-ce qu'ils pensent des choses. Bon, enfin. Mais le plus important, moi, que je trouve, c'est que une fois qu'il y a des personnes, des militants, que passent ces informations vers des journalistes, ça veut dire qu'aussi ils se protègent. Et ils protègent parce que les journalistes sont aussi protégés par le secret des sources. Et ça permet à des militants qui sont sur le terrain de faire remonter des informations à des médias qui travaillent sur l'extrême droite et en même temps se protéger. Et ça, c'est très important. Une fois que les journalistes reçoivent ces informations, comme Christophe disait, nous, on va faire un travail plus en profondeur avec des technologies au site. Ça nous permet parfois de découvrir des choses sur ces personnes qu'elles n'étaient pas forcément publiques, mais qu'elles sont dans l'espace numérique public. Et c'est ça que c'est aussi intéressant, c'est que on n'est pas en train de faire du travail dans la légalité, c'est que nous, on va utiliser des technologies aussi, donc des sources ouvertes, pour connaître le footprint que ces personnes ont laissé dans l'espace public, surtout dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est incroyable parce que ça, il y a un vrai impact sur des personnes d'extrême droite, mais aussi sur leur réseau. Ça me fait penser exactement là maintenant pour le C9M, pendant l'audition de C9M au tribunal administratif, l'avocat, il défendait le fait que des personnes se portent des cagoules parce que il y aurait des journalistes qui allaient dans le terrain pour faire des photos et détruire la vie de ces fascistes-là. Alors que, bien évidemment, le travail des journalistes, c'est pas du tout de faire ça, c'est apporter des informations à la connaissance du public que une grande partie effraie même la loi. Enfin, ça veut dire que ces personnes, elles ont des propos, ils ont des gestes qui sont racistes, homophobes, violents, etc. Et nous, on est juste là pour apporter de l'information. Et donc, le travail qu'on fait, des cartographies, des enquêtes, des articles de presse, et tout ça contribue exactement à faire connaître l'extrême droite et leur violence, que une grande partie de cette violence, elle est visible. Et donc, moi, je pense que, tu vois, en rapport à ta question de l'impact qu'on a dans le monde, dans le réel, moi, je pense que honnêtement, il faut pas du tout sous-estimer le travail qu'on fait comme journaliste qui travaille sur l'extrême droite, parce que ça aide vraiment à comprendre, parce que ça aide à comprendre qu'est-ce que c'est l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une un monde médiatique qui est là pour exactement amoindrir les violences d'extrême droite, la blanchir, etc. Et donc, c'est essentiel le travail que des médias indépendants comme Reflet, comme Slate Press, comme Mediapart, c'est tout un autre chose, mais la presse, pas pareil avant tout, fait, parce que c'est des petits médias locaux partout en France, font aussi un travail extraordinaire pour combattre, si on peut dire comme ça, combattre l'extrême droite.
Oui, absolument. On ne veut surtout pas minimiser ce travail-là, et surtout que, bah, comme beaucoup de choses, ce genre de travail, qu'il soit journalistique, militant, ou je pense aussi aux camarades qui sont dans la culture, a priori, on est un peu les premiers dans le viseur de la montée du fascisme. Je voulais aussi, il reste 6 minutes, j'ai promis à tout le monde de terminer à 20h. Je voulais laisser potentiellement à Jean peut-être un mot de la fin avant de passer à une question de Marianne.
Ouais, merci. Ouais, bah, je suis bien d'accord avec tout ce qui a été dit juste avant. Alors nous, en termes de résultats concrets, il y a nous pour, sur les municipales en fait, les informations ont circulé et ça a permis de pointer que justement il y avait des personnes indésirables qui avaient essayé de faire de l'entrisme sur les listes de gauche. Du coup, ça a permis que la liste soit au courant et qu'elles éjectent cette personne-là. Il y a aussi un maire qui a dû être obligé de s'expliquer face au fait qu'il avait des personnes qui étaient RN sur sa liste. Et ensuite, pour la question de la solidarité, ça a été donné là, entre les médias, etc., et puis entre le niveau du coup, national et plutôt local. Les deux sont complémentaires et c'est vrai que il y a deux points. C'est-à-dire que d'une part, je pense que la décentralisation de l'information, elle est aussi nécessaire puisque il y a besoin de visibiliser cette connaissance. Et même si on retrouve ces connaissances en fait sur des cartes nationales, en fait, dans les groupes locaux, en fait, la diffusion de ces connaissances, elle se fait localement. Et pour que les gens, en fait, s'y intéressent, c'est aussi localement. Et c'est aussi pour ça qu'on a des médias classiques, ça marche bien, les France 3 régions, etc. C'est aussi pour ces raisons-là, en fait. Et du coup, il y a aussi l'autre intérêt, en fait, c'est que beaucoup des gens, en fait, aujourd'hui, qui, quand on analyse la galaxie, il y a des gens, en fait, qui vont accéder, si jamais, en fait, le RN passait au pouvoir, à des postes, en fait, et qui changeront leur discours. Et du coup, les observer et savoir par où ils sont passés, ce qu'ils ont dit, ça permettra d'être réactif le moment où ils vont accéder au poste de pouvoir et peut-être essayer de se notabiliser. Et là où je rejoins aussi ce qui a été dit par Ricardo juste avant, c'est la question, et c'est là l'avantage en effet des journalistes qui ont leur carte, qui ont leur méthode, c'est la question de la sécurité. Et donc évidemment, je pense que c'est nécessaire que dans tout département, des gens se mettent à enquêter, mais il faut prendre quelques précautions. Déjà, la première précaution, à mon avis, c'est une question de VPN, quand on fait des recherches sur Internet, et suivre des formations faites peut-être sur l'antirépression, la sécurité numérique. Mais voilà, mais je pense que du coup, c'est très très complémentaire en fait ce travail qui est fait au niveau national et travail local. Mais nous aussi, on a été en contact avec des journalistes et c'est tout à fait juste ce qui était dit. Ça permet de protéger, ça permet de donner notre visibilité et ça permet aussi d'avoir une certaine rigueur en fait dans ce qui est démontrable ou ce qui est sûr. Que voilà, quand des personnes localement enquêtent, on va pas, c'est pas notre métier en fait. Voilà, je vais terminer là-dessus.
Merci beaucoup et je laisse la parole à Marianne.
Pardon, je mettais ma caméra, parce que c'est quand même un peu plus agréable. Ben, merci beaucoup pour ce travail, c'est vraiment extrêmement précieux. Et effectivement, on n'a pas les moyens, nous, de faire ce travail d'enquête journalistique qui demande vraiment beaucoup de temps. Je voulais juste dire que nous, on a pas mal travaillé en lien avec Vox Public, Dominique Kella, et je crois qu'il y avait quelqu'un de Vox Public, mais je crois qu'ils sont plus présents, mais qu'on fait un gros travail de veille et d'alerte sur les attaques de l'extrême droite vis-à-vis des associations dans les municipalités qui ont basculé, mais avec l'augmentation des municipalités qui ont basculé, se pose aujourd'hui toute la question de comment on recense et comment on continue ce travail de veille des attaques de l'extrême droite envers les associations. Parce qu'il y a deux questions. Il y a à la fois rendre visibles les associations effectivement d'extrême droite, type le Canon français, mais également rendre visibles les contre-canons qui sont déjà là. Parce que j'ai, pour exemple, j'ai rencontré dernièrement Co-Travaux qui sont des chantiers de bénévoles sur la rénovation du patrimoine et qui se retrouvent face à Arcade, qui est une association d'extrême droite. Le souci, c'est que quand on va voir le site d'Arcade, comme ça, pour le grand public, il n'y a pas tellement de différence dans un premier temps entre les deux assos. Et non seulement il n'y a pas de grande différence vis-à-vis du grand public, mais Arcade, qui est une association d'extrême droite, récupère aussi du financement public et parfois, et pas forcément, de municipalités d'extrême droite. Donc il y a aussi, tout un travail à faire, il me semble, hein, d'alerte des pouvoirs publics pour montrer qui ils financent. Et il y a la même situation, Dominique pourra le dire, sur EVARS pour l'éducation à la sexualité. Donc, il y a ces deux choses à prendre en considération. Et moi, je me dis simplement qu'on a tout intérêt à essayer de renforcer nos liens entre les associations qui travaillent sur ces thématiques, l'Observatoire des libertés associatives, Vox Public, et les journalistes qui sont sur ces travaux-là, pour vraiment se nourrir les uns les autres, parce qu'on a aussi des infos à faire remonter. Donc je pense qu'il faudrait essayer de penser, je ne sais pas comment, hein, mais peut-être l'observatoire, j'ai vu dans le chat, l'observatoire que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs, l'observatoire locaux de l'extrême droite. Peut-être qu'il y a un temps de travail qu'on avait déjà un peu essayé de construire à notre dernière assemblée permanente des associations citoyennes, mais un temps de travail collectif pour un peu plus structurer ces liens. Merci en tout cas pour ce webinaire.
Avec grand plaisir, merci pour cette prise de parole. Oui, effectivement, je pense que dans ce contexte-là, on se pose beaucoup la question de comment entretenir des liens pour ne pas répéter les actions des autres, et aussi en même temps ne pas se retrouver dans des usines à gaz où on se répète certaines choses. Donc, du coup, il y a toute cette tension-là, mais en tout cas, un peu comme disait Jean aussi, et ce que disaient aussi les camarades journalistes, c'est que c'est interdépendant et qu'il y a beaucoup d'informations au niveau local qui ressortent vraiment du terrain. Et je pense que, par exemple, sur les luttes locales, on l'a beaucoup vu aussi, que pour qu'une lutte locale soit vraiment victorieuse, il faut vraiment cet ancrage local-là, parce que quand on va faire de la contre-expertise, quand on va aller enquêter sur l'argent public qu'il y a derrière, ou les acteurs et les actrices qui sont derrière ces projets, ou le fait que, comme ils mentent sur plein de choses, les aménageurs ou les profils d'extrême droite, donc du coup, d'être sur le terrain pour voir quand les chantiers avancent, etc. Tout ça pour dire que ça dépend vraiment d'un ancrage local informationnel qui est assez important et ne surtout pas à négliger. Je vois qu'on a dépassé l'horaire, donc je vais prendre une dernière question, mais j'ai un peu promis aux gens que j'ai invités de les libérer pour le dîner. Donc Dominique, je te laisse une dernière prise de parole.
Ça va être court en ce qui concerne les financements des finances publiques. On attend avec beaucoup d'impatience le rapport de la commission sénatoriale qui justement investigue depuis un certain temps sur ces financements non pas occultes mais très nébuleux. Et il y a eu une question dans le chat qui m'a beaucoup, j'avais envie de la poser aussi, c'est toute la question des hauts fonctionnaires, des préfets, qui, sans le dire, en sont, j'ai envie de dire, et qui œuvrent dans leur fonction à faire avancer les idées d'extrême droite. Et ça, je ne sais pas comment on peut investiguer, faire une cartographie de ces personnes, parce que c'est un peu plus compliqué puisqu'ils ne sont pas à leur poste au nom de leurs idées politiques normalement, mais au nom d'une technicité. Donc c'est un peu complexe. En tout cas, Marianne disait que m'a nommé, nous au planning familial, on est très confrontés à ces techniciens et qui nous mettent des bâtons dans les roues sans dire qui ils sont. Voilà.
C'est possible, seulement préciser un petit truc vite fait. C'est seulement qu'en rapport à cette question, dans le mouvement de gauche, dans le militantisme de gauche, il y a eu toujours une petite aversion aux médias. Et c'est ça que ça n'a pas permis souvent des médias de travailler avec des militants. Mais aujourd'hui par exemple, les médias qu'on appelle, je l'ai dit déjà plusieurs fois, la presse pas pareille, donc des médias comme Reflet, comme Street Press, c'est des médias qui sont engagés, c'est des médias qui sont au plus près des personnes qui subissent des violences, des personnes que sont dans le terrain, qui travaillent, qui connaissent. Ils sont des médias qui ont une posture très attentive au discours, il y a les nécessités de ces militants et des personnes qui sont victimes de violences d'une manière générale. Et donc, je pense que aussi c'est important dans un moment dans lequel l'extrême droite est vraiment en quête de pouvoir et qu'éventuellement elle sera au pouvoir, sauf si on arrive à s'organiser, surtout dans nos milieux militants. Mais dans ce moment-là, je pense que ce serait très intéressant que nous, on arrive aussi à tisser des liens proches avec des médias, surtout des médias qui sont engagés, voilà, de la presse pas pareille. Je ne sais pas si vous connaissez la presse pas pareille. Vous connaissez ou pas? Vous connaissez la carte de la presse pas pareille? Bon, voilà, okay, excusez-moi. Mais voilà, surtout ces médias-là, c'est des médias que on peut facilement travailler avec. Et bien évidemment qu'il y a des observatoires comme l'ONED qui sont proches de la France insoumise, qui sont même ficelés par la France insoumise, et que c'est très bien, ils font un travail très bien, mais c'est toute une autre manière de travailler, alors que, voilà, comme Christophe il vient d'écrire dans le chat, voilà, il y a toute une autre manière de travailler avec des militants, et que je pense que j'ai envie de dire, sur aussi leur protection. Et c'est un truc que c'est important aussi que les militants ils sachent qu'ils peuvent compter avec médias alternatifs comme ça. Et alors que voilà, ils ont été trahis plusieurs fois, à plusieurs reprises par des médias mainstream, et que voilà, c'est pas le même type de travail. Et je pense que vous le savez, mais je tiens quand même à le dire.
Merci beaucoup. Et à moins qu'il y ait une dernière question, un dernier mot de la fin, je vais terminer l'enregistrement.